Elle est de tous les temps de l'histoire, cette parabole de cet homme avide de jouir de ses biens, de profiter de ses revenus. Ses terres avaient bien rapporté, dit le texte. Elle est extrêmement classique. Rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Des générations entières l'ont entendu répéter. Rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Nous en avons entendu un passage en première lecture et vous avez noté qu'on ne l'appelle plus le livre de l'Ecclésiaste, on l'appelle maintenant le livre de Coëlette. Probablement pour le distinguer d'un autre livre de sagesse qu'on appelait le livre de l'Ecclésiastique. Ça se ressemblait trop, l'Ecclésiaste et l'Ecclésiastique. On appelle dorénavant l'Ecclésiaste le Coëlette et l'Ecclésiastique le livre du Siracide. Bon, ce sont des changements de nom qui ne changent pas grand-chose. Rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste ou dit le Coëlette. Peu importe, notre condition est la même. Notre condition mortelle est la même. Dieu seul est éternel et même Dieu seul est bon. Souvenez-vous de ce qu'on entendait dimanche dernier dans l'Évangile. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus notre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? À ceux qui le lui demandent, il donnera l'Esprit Saint et la vie éternelle. Et donc cet homme voulait profiter de ses richesses. Tu es fou, lui dit Dieu. Fou vraiment ? Est-ce que c'est vraiment une folie de vouloir profiter de la vie ? Il me semble que la leçon, la pointe de cette parabole, c'est son caractère intemporel. Le fait que 20 siècles plus tard, aujourd'hui, nous soyons quand même très semblables à cet homme. Pareil à cet homme qui voulait prendre un peu de bon temps. Quoi qu'on en dise, sur le plan humain, on n'a pas beaucoup changé en 2000 ans. Et même, pour le dire de façon encore plus claire et plus forte, le progrès humain n'existe pas. Le progrès technique, assurément, non seulement il est exigeant, il est éblouissant, il s'est accéléré même de façon vertigineuse, il nous ouvre à toutes sortes de possibilités jusqu'alors inconnues. Ça, c'est vrai pour du progrès technique, mais le progrès moral. Le progrès moral n'existe pas. L'être humain n'est ni meilleur, ni pire que par le passé. Et souvenez-vous, pendant les dernières campagnes électorales qu'on a eues ces derniers mois, cette année, l'opposition entre ceux qui se tournaient vers le passé, qui se lamentent de tout ce qu'on a perdu. Et puis, à l'inverse, ceux qui promettent que demain sera meilleur. On peut les appeler ceux-là des progressistes et les autres des réactionnaires. Ou alors on peut dire que ce sont des optimistes contre des pessimistes. Mais les deux se trompent. L'homme n'est ni meilleur ni pire. Car le progrès moral sur le plan collectif n'existe pas. Enfin, ou plutôt, il n'existe pas. C'est un jeu à somme nulle. C'est un jeu à somme nulle parce que ce que nous gagnons d'un côté, nous le perdons de l'autre. C'est vrai qu'il y a des avancées, même des avancées sociales, qui nous rendent extrêmement fiers dans la promotion des différences, dans l'accueil des étrangers, dans la valorisation des minorités. On peut en faire toute une liste, mais qui s'accompagnent simultanément d'autant de régressions en matière de respect de la vie, aussi bien naissante que déclinante, d'attention aux personnes âgées, de fidélité des couples, de gratitude pour le pays qui nous a vu grandir, de protection de la famille comme cellule de base de la société. On peut faire aussi là toute une liste. Le progrès moral, c'est un jeu à somme nulle. Et la sagesse chrétienne nous interdit de penser et que c'était mieux avant. C'était ni mieux ni pire. Et surtout que nous serions plus intelligents que les générations passées. C'est toujours triste de voir avec quel mépris on utilise l'expression de retour au Moyen-Âge. Vous savez, souvent on dit « Ah, c'est un retour au Moyen-Âge ». Mais ceux qui parlent, qui utilisent cette expression, feraient mieux de travailler, de se documenter, d'étudier ce qui est réellement le Moyen-Âge et de voir à quel point le Moyen-Âge a donné, ce qu'il a donné comme penseur, comme artiste, comme saint. réellement imité. Il n'existe pas de progrès moral sur le plan collectif. Et c'est là la signification profonde et véritable de la doctrine du péché originel sur laquelle tant de croyants butent et dont la parabole de ce dimanche est en quelque sorte une illustration, comme une parabole de la chute, quand un homme qui se croit parvenu au faîte du temple se jette de lui-même en bas. Pour reprendre l'expression du psaume, nous sommes tous fils d'Adam. C'est une expression répétée dans les psaumes, plus de 20, peut-être 30 fois. Fils d'Adam, nous sommes tous fils d'Adam, c'est-à-dire à égale distance du premier homme pécheur, Adam. Nous avons tous le même lien au péché originel. Nous avons tous la même tentation de rompre avec Dieu, de faire, pour reprendre les paroles de la prière d'ouverture de dimanche dernier, un mauvais usage des biens qui passent au lieu de nous attacher aux biens qui demeurent. Nous sommes tous à égale distance d'Adam, quels que soient les siècles qui s'accumulent et qui peuvent encore continuer à s'ajouter. Nous sommes tous à égale distance d'Adam et de son péché, et c'est pourquoi il est vital de donner le baptême aux petits-enfants dès leur naissance pour couper ce lien, pour retrouver le vrai lien originel d'amour de Dieu. Prière d'ouverture, il le dit, notre Créateur et notre guide. Pour trouver dans le Christ et dans l'Esprit Saint l'égalité entre nous, dont parle saint Paul dans la deuxième lecture, riches et pauvres, hommes et femmes, natifs ou étrangers. Car cette mauvaise nouvelle d'être tous à égale distance d'Adam s'accompagne d'une bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, l'Évangile, nous sommes tous aussi à égale distance de Jésus-Christ. Il n'y en a pas qui serait plus proche de lui que d'autres. C'est réellement ça l'égalité chrétienne, nous sommes tous à égale distance du Christ. Si la question du progrès moral, voire de l'absence du progrès moral vous intéresse, reprenez les pages de l'encyclique de Benoît XVI sur l'espérance, les paragraphes 24 à 26, où il montre que chaque génération doit construire elle-même sa propre liberté, doit accéder elle-même à sa propre liberté. Et il montre que le remplacement... Voilà pour le coup le vrai grand remplacement, le remplacement dans la mentalité moderne de la foi en Dieu par la foi dans le progrès. C'est ça le grand remplacement. Eh bien ce remplacement dans la mentalité moderne de la foi en Dieu dans une foi dans le progrès, c'est une illusion. C'est une illusion parce que le progrès technique, si éblouissant soit-il, dépend tout entier de l'usage que nous en faisons. Je cite Benoît XVI, « La science peut beaucoup contribuer à l'humanisation du monde et de l'humanité. Cependant, elle peut aussi détruire l'homme et le monde si elle n'est pas orientée par des forces qui se trouvent en dehors d'elle. La science n'est pas sa propre maîtresse. Ce n'est pas la science qui sauve l'homme. L'homme est sauvé par l'amour. Ce n'est pas l'argent qui peut sauver l'homme, seul l'amour. Et ce progrès moral qui est impossible sur le plan collectif, non seulement est possible, mais il nous est même proposé, c'est même ça qui nous est offert. Il est indispensable sur le plan personnel, par la grâce de Dieu, par la prière et les sacrements, par la suite du Christ, c'est même au plus profond le sens de la vie. Tant de personnes demandent quel est donc le sens de la vie ? Nous rapprocher de Jésus-Christ.